Hello, hello, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver dans votre podcast hebdomadaire Étincelle, le podcast qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va à la rencontre de Samia Mekas, une femme guerrière, multiple, qui est à la fois sophrologue, énergéticienne, entrepreneuse et qui va nous parler de la maladie, cancer du sein, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Il va nous parler aussi de l'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné et être authentique? Et comment impacter le plus de monde possible sans vous épuiser et sans vous fatiguer pour avoir plus de clarté? Vous allez découvrir tout cela dans l'épisode. À tout à l'heure.
Hello, hello Samia, merci d'avoir accepté le rendez-vous chez Étincelle. Donc je vais commencer par poser la première question, qui est une question assez philosophique. Qui es-tu Samia?
Bonsoir, bonjour Najwa. Merci infiniment d'abord pour, de m'avoir invitée. Merci de pouvoir me laisser la parole par rapport à ça. Donc moi, c'est Samia, Samia Mekas. Donc je suis née dans un petit village en Kabylie et je suis arrivée ici donc, en France à 4 ans. J'ai un petit peu grandi maintenant, puisque bon, j'ai un peu plus de 40 ans. J'ai deux beaux enfants, un de 21 et un de 15. Et j'ai un super métier parce que j'accompagne les femmes à reprendre estime d'elles-mêmes pour s'aimer et aimer pleinement l'autre après avoir vécu un cancer du sein. Donc aujourd'hui, je suis sophrologue, thérapeute, en fait, énergéticienne, qui permet justement d'amener une autre dimension, en fait, à travers cette maladie et surtout dans sa compréhension énergétique.
Et du coup, aujourd'hui, Samia, essentiellement, si j'ai bien compris, tu accompagnes les femmes dans la perception de cette maladie-là, ou il y a les hommes y compris ou,
Alors, c'est bien, Najwa, que tu poses la question, c'est même très intéressant parce qu'on a très souvent tort de dire que le cancer du sein n'est que pour les femmes. C'est effectivement aussi pour les hommes. Il y a 8 ans, par exemple, c'était à 1%. Aujourd'hui, on est quand même à 5% pour les hommes, donc ça évolue. Mais les hommes, malheureusement, en parlent très peu puisqu'on l'a très féminisé, donc ils en ont encore honte. Donc, ça devient aussi un problème. Donc, quand les hommes viennent à moi, il n'y a aucun souci, évidemment, que je travaille avec eux. Mais ma clientèle est 90% de femmes. Et donc, avec ces 90% de femmes, en fait, on voit un petit peu qu'est-ce que la maladie leur a apporté, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour être malade, parce que moi, je pars du principe, et comme beaucoup d'autres, sur une grande valeur, c'est que finalement, quand on est malade, c'est le début de la guérison de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, pour moi, évidemment, dans ma recherche et mes expériences, évidemment, personnelle, puisque j'ai vécu ce cancer en 2012, un cancer du sein, donc j'avais à cette époque-là 33 ans, et donc j'ai évidemment vécu tout le grand protocole très lourd, l'annonce de ce cancer, puis ensuite il y a eu la chimiothérapie, puis ensuite je me suis cassé la jambe, puis ensuite il y a eu la radiothérapie, bref, donc tout ça a mis une petite année à se remettre, et finalement en 2013, j'étais debout, donc j'étais une femme contente et en rémission. Et là, il y a donc la deuxième phase de la maladie, donc il y a l'après-cancer du sein, la rémission. La rémission, on pense que c'est facile parce qu'on se dit, bah, c'est super, c'est génial, maintenant on est guéri, donc on peut avancer. Donc votre famille, vos amis, l'hôpital vous dit, bon, bah, bientôt, ça y est, maintenant t'es guéri, donc tu peux y aller. Donc il y a cette phase qui est très perturbante, qui est l'après, et finalement on se retrouve seul, abandonné et déboussolé. Puisque pendant un an et demi, on va dire qu'on était sous la jougue de l'hôpital avec les rendez-vous, d'une ministre qui était bien équilibrée, avec la famille qui était en soutien, les amis, et ainsi de suite. Et puis là, on se retrouve en rémission, et puis ça y est, tout le monde a repris le cours de sa vie, mais toi, tu te retrouves seule. Et après cette maladie, il y a aussi une perte de sens, un manque de sens, en fait, hein, puisqu'on est, à travers ce qu'on a vécu, il y a eu des prises de conscience qui se sont faites, on a grandi différemment, et donc, du coup, il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des ruptures qui se font, hein, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des amitiés ou même au niveau de la famille. Parce qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a des incompréhensions. Et puis, il y a aussi cette réappropriation du corps qui fait qu'aujourd'hui, bah, évidemment, on était la femme d'avant. Et donc, nous, notre rêve, c'est d'être la femme d'avant. Finalement, ça n'a plus été possible, malgré évidemment toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a changé. Donc, physiquement, on n'est plus la même. Alors, très souvent, on grossit. Très souvent, on a un sein, on a les deux seins où on n'a pas du tout de sein. Et donc, du coup, il y a une reconstruction physique qui se fait aussi, mais surtout, des reconstructions émotionnelles qui doivent se faire, des reconstructions psychologiques. Voilà. Je pense que ça répond à ta question ou pas, Najwa?
Carrément, carrément. Et ouais. C'est super intéressant parce que ce que tu dis, parce que ça me fait penser à. En ce moment, je lis pas mal de choses sur les personnes ayant des maladies chroniques. Et justement, la problématique avec ces personnes, c'est que des fois, ils ont l'illusion, ils croient qu'en fait, ils vont retrouver la vie d'avant. D'avant la maladie chronique. Et en fait, il passe, enfin, il y a un cycle qu'on appelle le cycle d'Hudson, et en fait, il passe par différentes phases avant d'accepter cette maladie et d'accepter de vivre que peut-être ils auront une vie d'après qui est peut-être plus épanouissante que la vie d'avant parce qu'ils ont évolué aussi et qu'ils ont changé. Et c'est vrai que ce passage, en fait, de l'avant à l'après, c'est vrai, des fois ça peut être traumatisant pour certaines personnes parce qu'ils s'accrochent à des systèmes de comparaison. Il y a aussi la société qui met aussi pas mal de pression. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport, même si je suis hyper sensible à ces sujets, et j'étais pas du tout au courant du sujet du cancer du sein pour les hommes, par exemple, parce qu'on n'en parle pas.
Non, c'est vrai.
Pour les femmes que pour les hommes, carrément. Et c'est vrai qu'on a féminisé certaines choses. Par exemple, pour une femme qui va subir un changement dans son physique, c'est vrai que il y a aussi la pression de la société par rapport à sa féminité, par rapport à beaucoup de choses.
Oui, bien sûr. Moi, la problématique que j'avais rencontrée à l'époque, bien sûr, alors j'étais évidemment en tant que malade, entre guillemets, donc en 2012, mais en 2013, j'ai décidé, par exemple, que j'étais guérie. Quand on m'a dit je suis en rémission, j'ai pris place dans ma guérison personnelle. C'est-à-dire que ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'il faut jouer son rôle aussi, c'est-à-dire, et ne pas laisser tout son pouvoir ou sa puissance qu'au médecin. Les médecins sont des médecins. Ils ont effectivement une importance primordiale parce qu'ils sont en train de traiter la maladie, mais seulement les symptômes. Et moi, là où je vais plus loin, c'est qu'on va traiter la cause. Comment on peut traiter la cause? Parce que très souvent, si vous interrogez des femmes qui ont vécu des cancers du sein, c'est beaucoup, il y a pratiquement 75% où ce sont après avoir vécu un traumatisme. Et donc, du coup, après avoir vécu, par exemple, un choc, une annonce, voilà, ou d'un deuil ou quelque chose, et qui a fait que finalement, on a développé ça. Parce qu'effectivement, le cancer du sein, ce sont des cellules, finalement, qui dégénèrent, d'accord? Donc, elles ne dégénèrent pas comme ça. Il y a pas mal de choses qui se passent pour qu'elles dégénèrent. Donc, il y a quelque chose qui est important. Il y a le côté médical, mais il y a aussi tout l'autre côté, puisque aujourd'hui, on le sait, et pour tous ceux qui sont un petit peu... grâce à l'épigénétique aujourd'hui, on le découvre, grâce à la physique quantique, c'est qu'on n'est pas seulement qu'un corps, hein, d'accord ? On a plusieurs corps, on a un corps physique, émotionnel, énergétique, et ainsi de suite. Et donc, du coup, tout ça, finalement, pour vraiment se rétablir, guérir et prendre conscience qu'on a un super pouvoir et un super corps, finalement, c'est de travailler dans la globalité. D'accord ? Ne pas croire que parce qu'on travaille juste une partie du corps, genre on fait juste du sport, ça va aller mieux. Non, pas du tout. Se réapproprier vraiment cette guérison et un autre état d'esprit, c'est aussi passer par l'alimentation, par les émotions, par les blessures et par toutes ces choses finalement qu'on a tues pendant très longtemps et qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à ouvrir. Donc, le cancer du sein, j'ai envie de dire, c'est très intéressant parce que, bon, évidemment, elle a une symbolique. Hein. Chaque maladie, chaque mot qu'on a dans le corps a une symbolique et a une définition. Moi, j'adore, j'aime beaucoup le livre de Jacques Martel, je crois, le dictionnaire des mots, d'accord ? Donc là, en fait, on s'aperçoit que finalement, partout dans le corps, il y a quelque chose qui résonne. Par exemple, si on prend les pieds, ça va être un problème de direction. Si on prend les seins, ça va être un problème maternel. Alors, il y a beaucoup dans la maternité, féminité, hein, d'accord ? Donc, c'est la relation à soi, la relation en tant que femme, la relation avec sa maman, la relation en tant que maman avec ses enfants. Bref, tout ça, eh ben, on l'explique, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre en toute sa globalité ce cancer du sein, cette maladie, ou peu importe d'ailleurs à toutes les maladies. Hein. C'est vraiment de comprendre que finalement, il y a un état d'avant, un état d'après, mais qu'après cet état, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de créer un sas pour comprendre en réalité ce que c'est que la maladie, pour rebondir finalement dans sa vie, dans la vie qu'on choisit finalement cette fois-ci.
Carrément. Complètement en phase avec ce que tu dis. Et justement, Samia, aujourd'hui, tu es sophrologue, qui est thérapeute en plus, c'est ça ?
Oui. J'ai beaucoup de casquettes. Donc,
tu peux nous expliquer justement ces casquettes-là. Qu'est-ce que tu en fais exactement ?
Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est là où justement toutes ces pratiques sont pour moi très puissantes. Elles sont toutes différentes et vont traiter un sujet différemment. Si on prend la sophrologie, qui grâce à la respiration, d'accord, et la respiration, on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même la première chose qu'on fait en naissant, d'accord, on respire, on ne va pas manger, on respire d'abord. Donc, la respiration, c'est vraiment un boost d'énergie pour son corps. Il y en a d'ailleurs qui ont écrit des livres sur la respiration qui sont juste extraordinaires. C'est vraiment le poumon de la vie. Donc, ça nous permet effectivement de pouvoir calmer notre mental, de pouvoir baisser les tensions, de pouvoir aussi oxygéner notre cerveau et nos organes qui vont justement se détendre. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un pouvoir dans la respiration. C'est simple, mais la plupart des gens respirent très mal aujourd'hui. On respire en hauteur et donc on respire finalement souvent, on a une respiration d'angoissée. Donc automatiquement, quand nos organes sont angoissés, ben, il y a une information qui va au cerveau et on a l'impression qu'on est toujours dans le speed, dans l'angoisse. D'accord ? Donc ça se calme avec la respiration. Ensuite, on a donc dans la sophrologie, hein, il y a vraiment trois, le mouvement hein, pour allier justement cet état physique et cet état de l'esprit. Donc, c'est vraiment allier les deux, hein, le corps et l'esprit. Et puis, il y a cette visualisation. Alors, certains l'appelleront méditation, d'autres l'appelleront visualisation, d'autres l'appelleront voyage. Et donc, ces visualisations où justement, on peut aller à l'intérieur inconsciemment, j'ai envie de dire, et passer à un stade, ce qu'on appelle le niveau sophroliminal, et donc d'aller justement peut-être aller découvrir des choses, enlever certaines peurs, voilà, pour rétablir une certaine vérité. Donc, on va plus travailler avec l'inconscient que le conscient, puisqu'on sait bien aujourd'hui que le conscient n'a que 5 ou 10%, je crois. Donc, cet espace-là, finalement, est très limité et que notre vie est générée par l'inconscient. Et c'est là où c'est plus intéressant, finalement. Donc, on peut aller jusque-là. Et au niveau énergétique, là, on amène une autre dimension parce que là, on passe de l'invisible au visible. Et donc, ça, c'est très important. La physique quantique nous l'amène. Et ça, c'est vraiment, pour moi, très, très puissant, puisqu'on a découvert qu'on était 99,9% d'énergie et que finalement, dans ce vide qu'on pense être vide, c'est de l'énergie, et dans cette énergie, il y a ce qu'on appelle des informations. Donc finalement, le monde est une information pour soi. Et la maladie aussi. Ou en fait partie, en tout cas. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce que moi je mets en place. Donc qu'est-ce que je mets en place pour aider ces femmes, justement, ou ces hommes? C'est justement d'aller voir, comment ça s'appelle, de se réapproprier son corps, puisque le regard de soi, la féminité, bien sûr, c'est hyper important. Hein. On passe de deux seins qu'on aimait plus ou moins à carrément peut-être qu'un sein ou pas de sein du tout, qu'on n'aime pas forcément, avec pas mal de cicatrices. Donc, il y a son regard à soi, le regard des autres et de la société, et le regard aussi de l'homme, parce que ça aussi, c'est très important. Alors, même quand on est en couple, ben, ça peut aussi poser des problèmes, hein, puisqu'on a vu l'autre souffrir, donc on se dit, on va peut-être pas la faire souffrir. Enfin, vraiment, il y a des questions fondamentales qui se posent dans un couple. Il y a même des séparations. Et du coup, la femme, ben, elle se doit quelque part, entre guillemets, ben, elle veut avoir un nouvel homme dans sa vie ou une nouvelle femme, hein, peu importe. Et donc, du coup, bah, il y a tous ces enjeux pardon, qui sont aussi à mener. Et puis ensuite, il y a toutes ces blessures de l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourdeau, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui parle des blessures de l'âme. Et effectivement, depuis qu'on est petit, on a les blessures. Alors, ça va être pour certains la blessure du rejet ou la blessure d'abandon ou d'humiliation. En tout cas, elle en nomme 5, Sylvie Wallet en nomme 7. Bon, en tout cas, il y a ces blessures-là. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'aller finalement comprendre ces blessures. Alors, pas les comprendre intellectuellement, encore une fois, hein, parce qu'intellectuellement, souvent, on se répète la même histoire. D'accord ? Sauf que quand on va dans l'inconscient, effectivement, là, il y a des choses qui se disent, qui s'entendent, qui s'écoutent différemment. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, il y a ces blessures. Et puis, il y a aussi accueillir ces émotions. Pourquoi les émotions sont importantes ? Les émotions impactent le corps, bien évidemment. Vous savez, quand vous êtes tout le temps stressé ou quand vous êtes nerveuse ou quand vous essayez de contrôler vos émotions, tu sais, la petite histoire qui nous dit quand on est petit, ne pleure pas, sois gentil, tout ça. Donc, tu ne peux pas t'exprimer comme tu veux. Mais à force de garder ça, finalement, eh ben, tu entasses à l'intérieur de toi. Et un jour, il y a cette cocotte minute. Et cette cocotte minute, ben, c'est ça la maladie. Qui dit, il y a des choses à exprimer, mais que tu n'as pas entendu. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher pendant justement cet accompagnement.
Oui, il y a aussi un jeu de mots que j'avais lu quelque part, que la maladie, c'est quelque chose, c'est un mal qui était dit aussi.
Oui, alors c'est, d'ailleurs, le jeu de mots, c'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux, c'est la maladie. Donc, c'est quand on le décompose, c'est le mal a dit. Ouais. D'accord ? Donc, ça veut dire le mal a dit ou le mal n'a pas dit, parce que souvent, c'est ce qu'on tait qui surgit et qui finalement nous fait mal.
Intéressant. Et du coup, Samia, aujourd'hui, t'es entrepreneur.
Oui, je suis une entrepreneuse en plus.
C'était quoi la plus grande peur avant que tu te lances dans le monde entrepreneurial ?
Je sais pas, je crois vraiment que j'étais faite pour être entrepreneuse, hein, puisque je l'étais avant donc la maladie. J'avais une boutique de vente de décoration d'intérieur, donc j'étais une femme très entrepreneuse. Ma plus grande peur pendant ou juste vraiment se lancer. Bah finalement, je pense que se lancer, c'est de se dire, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que moi, en tout cas, je vais y arriver ? Ouais. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, enfin voilà, ces questions-là qui sont là finalement, est-ce que j'ai le droit de faire ça?
Ok, et comment tu as fait face justement à cette peur?
Comment je l'ai dépassé, tu veux dire?
Ouais.
Ouais. Bah, en passant à l'action, c'est pas compliqué, en passant à l'action. Tu sais, quand tu as cette petite voix qui te dit, non mais imagine, tu vas tout foirer, ça va pas aller. Et là, tu te dis, bon, écoute, ça suffit, stop. Et là, tu commences à passer à l'action. Donc, tu lances les choses, tu fais les choses. Et puis, bon, par contre, il y a quelque chose que j'ai appris, évidemment, avec le temps, c'est vraiment de m'écouter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je ne suis pas alignée, je ne le fais pas. Parce qu'évidemment, j'ai été coachée par des coachs, j'ai entendu plein de choses entre YouTube, Facebook, tous les réseaux, puisque évidemment, en tant qu'entrepreneuse maintenant, et puis moi, j'ai envie d'être digital nomade. Donc, du coup, je passe beaucoup de temps sur les réseaux, sur tout ce qui est voilà, les réseaux d'aujourd'hui, entre YouTube, Insta, Facebook, et ainsi de suite, hein, pour être visible, et bien plus, hein, bien évidemment. Mais on a ce qu'on appelle encore aujourd'hui des coachs qui vont vous dire absolument toutes les stratégies marketing, les tunnels de vente, les ceci, les cela. Donc, vous êtes noyé dans cet tas d'informations qui, en plus, sont différentes selon le coach que vous avez. Donc, et voilà. Donc, ça aussi, pour moi, ça a été très, très perturbant parce qu'un te dit A, un te dit B, l'autre te dit C. Et puis, finalement, tu dis non, mais attends, tout le travail que j'ai fait, ça ne sert à rien. Il y a un moment donné aussi, c'est pareil. Donc, j'ai relâché et je me suis dit, OK, Sam, ben toi, comment toi, tu as envie de vivre ça? Et c'est là où justement, ça a commencé à changer parce que finalement, je me suis écoutée. Et que, alors, c'est très marrant que tu poses la question parce que c'est un vrai développement de soi, une vraie croissance personnelle d'être entrepreneuse.
Exactement. Et justement, Samia, le mot aligné même, parce qu'il y a aujourd'hui des mots qui sont interprétables de façon différente d'un individu à un autre. Pour toi, Samia, aujourd'hui, c'est quoi être aligné?
Alors, pour moi, être aligné, c'est vraiment avec le cœur, le corps et l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, ta tête, elle va dire « Non, mais fais ça, parce que tu sais, si tu ne fais pas, tu ne vas pas être visible. » Non, mais fais ça parce que si tu le fais pas, bah, tu sais, tu vas pas avoir de cliente. Mais toi, tu sens que tu n'as pas envie. Tu as juste envie de faire autre chose. Et que tu as envie, imaginons que tu as juste envie de sortir et aller dans la forêt et poser tes pieds dans la nature. Et tu te dis, ben non, ça se fait pas. Ah, t'imagines, tu vas perdre ton temps. Et puis alors, comment tu vas récupérer tes clients? Et puis, c'est normal. Si tu n'as pas travaillé assez, comment tu vas avoir des clients? Tu vois? Et donc, du coup, rien que ces questions-là, bah, à un moment donné, vaut mieux que tu lâches et que tu ailles te balader dans la forêt parce que des fois, rien que ça, ça change tout. C'est-à-dire que finalement, tu ne rentres plus dans ton mental, d'accord, mais plutôt, ou dans ton ego, mais plutôt dans vraiment le fait que tu sois aligné. C'est-à-dire que là, tu discutes plus avec ton âme plutôt qu'avec ta tête.
Super, belle définition.
Ou ton cœur, ou ton énergie. Enfin, vraiment, on l'appelle comme on veut, encore une fois. Hein, c'est vraiment ouvert et chacun y met les mots. Puisque chaque mot a une résonance. Chaque mot a une résonance et une vibration. Et donc, du coup, vaut mieux y mettre les mots qui nous parlent le mieux.
Carrément. Et c'est quoi les étapes clés justement qui t'ont permis de passer de l'idée au projet concret?
Alors, les étapes clés, c'est déjà de passer le fait que j'étais un imposteur.
Un imposteur, ouais.
Mais on peut le dire en féminin quand même, non?
Je pense être une imposture, ça c'est.
Ah ouais. Bon, bah alors je vais dire une impostrice.
On avance, on s'en fout.
Oui, oui. J'aime beaucoup inventer les mots en féminin en plus, parce que je trouve que, voilà, je ne vois pas pourquoi on mettrait ces mots-là et on sait, tout le monde sait de quoi on parle. Alors, c'est vraiment ça. D'abord, l'idée, c'est est-ce que franchement, d'abord, moi, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de le faire et pourquoi? Pourquoi on a vraiment envie de le faire? Ça, c'est vraiment très important, connaître son pourquoi profond. Parce que, tu sais, c'est une grande, grande, et tu le sais, hein, je pense, je n'ai rien à t'apprendre dessus, mais c'est un grand chemin, tu vois. C'est un peu comme si tu étais en bas de la, enfin, dans un magasin, que tu allais acheter tes baskets pour aller monter dans une montagne. Et cette montagne, si tu veux, va pas se monter toute seule et tout de suite. Hein, il faut prendre le temps, il faut avoir les bonnes chaussures, il faut s'arrêter un petit peu, il faut manger, tout ça. Et donc, c'est un vrai chemin de construction. Donc, si tu n'as pas vraiment un pourquoi profond, tu le fais juste parce que l'idée, elle est venue et que finalement, l'idée, elle n'est pas concrète et que ce n'est vraiment pas ton pourquoi profond, il y a des chances que tu abandonnes. Il y a un moment donné où, en tant qu'entrepreneuse, bah, déjà, tu es seule, hein, tu es derrière tes ordi, tu travailles même si tu es en connexion et surtout ces temps-ci, puisqu'on adore Zoom maintenant, puisqu'il y a le Covid, donc on ne fait pas grand-chose en présentiel. Donc, il y a un moment où on se retrouve seul aussi, on se pose énormément de questions, on doute aussi sur nos capacités, sur nos compétences. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, puisque moi, en tant qu'entrepreneuse, d'abord, j'arrivais en tant que thérapeute sophrologue énergéticienne, donc ce qui n'est quand même pas du tout le même métier. finalement, j'ai dû apprendre beaucoup sur les stratégies marketing, les tunnels de vente, sur le fonctionnement de Facebook, les algorithmes, YouTube, enfin voilà. Donc, il y a quand même tout un écosystème à apprendre et comprendre avant même d'avoir des clients, j'ai envie de dire.
D'accord. Et justement, Samia, pour toi, tout à l'heure, on parlait de cette envie justement de féminiser certains mots. Et justement, si parce que le podcast, il est destiné aux femmes entrepreneurs, du coup, ou qui aspirent à être entrepreneurs en tout cas, quelles sont les qualités, d'après toi, qui sont indispensables pour qu'une femme entreprend un business ?
Alors, l'adaptabilité, d'accord, pour qu'elle soit apte à être adaptable, hein, ça veut dire qu'elle peut passer de storytelleuse, hein, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand on écrit une histoire un petit peu. Donc, elle peut passer de storytelleuse à marketing digital, à créer un tunnel de vente et des contenus, autant qu'elle peut passer justement à sa pratique réelle, d'accord. Donc, ça, c'est très important, c'est l'adaptabilité. Mais il y a trois mots pour moi qui sont essentiels, c'est la patience, d'accord. Ne croyez pas que vous êtes en train de faire un sprint. C'est pas un sprint, hein, c'est vraiment un long chemin. La persévérance, d'accord. Il y a des moments en fait où vous n'avez pas le mindset. Donc, il faut vraiment avoir ce mindset, hein, c'est parce que souvent quand on se lance, tu sais, on est dans ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Donc, on a plein d'énergie, on veut faire plein de trucs et tout, mais en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que on n'a pas toutes ces compétences. Donc, ce qu'on appellerait l'incompétence consciente cette fois-ci. Et donc là, à ce moment-là, on arrive vraiment dans un étau tout en bas, en se disant non, mais en fait, je suis pas capable et ceci, cela. Donc, si vous dépassez pas ça, vous remontez pas, et ben là, à ce moment-là, vous arrêtez. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette persévérance et ensuite se lâcher prise. Le fait de lâcher prise, ça va ouvrir des opportunités, ça va laisser un petit peu libre à l'énergie de circuler. Si vous êtes tout le temps constamment stressé et que votre seul objectif, c'est, imaginons, d'avoir 12 clientes au lieu d'en avoir que 5, et ben si vous pensez qu'à ça, il y a un moment donné où vous bloquez les énergies. Donc, lâchez, vous faites votre demande, on va dire, entre guillemets, à l'univers, ou vous écrivez votre objectif sur les to-do list, et là, vous lâchez. C'est OK, on a compris. Et donc, voilà, le travail se fait. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneuses qui, effectivement, ne pensaient qu'à ça. Il y a une phrase magnifique.
Il y a beaucoup, pardon, d'entrepreneurs qui pensent justement combien de nombre de clients j'ai par semaine, j'ai par mois.
C'est ça.
Ils vont avoir tant pour avoir tant d'argent à la fin du mois.
Exactement.
Ils mettent un stress de fou. Et justement, la dernière fois, j'ai une copine qui me disait, là, en ce moment, je lâche et je ne mets rien sur Instagram, je ne mets rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai des clientes, en fait.
Exactement, parce qu'il faut laisser l'énergie. On vous apprend, enfin, on apprend. Moi, je sais qu'en marketing, là, je l'ai vu et tout. C'est qu'on apprend. Alors, l'objectif, reste concentré sur l'objectif. Il y a une chose qui est très, très importante. Il y a l'objectif, il est posé. Ça y est. OK. Maintenant, vis le chemin. Et c'est ça la grande différence. Et souvent, quand on vit le chemin, on est en stress parce qu'on pense qu'à l'objectif. Donc, l'idée, c'est de relâcher et de te dire, OK, maintenant, quel chemin je fais? Comment je fais? Tu vois, comment je crée tout ça? Mais simplement et sans stress. Vraiment, ça, c'est très important. Il y a aussi des choses où il faut penser à soi d'abord. Hein. Tu n'es pas devenue entrepreneuse pour faire comme du salariat, c'est-à-dire travailler 8h-17h. Hein. Il y a vraiment aussi toutes ces notions qu'il faut comprendre. Se donner aussi l'autorisation de prendre du plaisir à travailler. D'accord. Et si le mot travail ne te convient pas, puisqu'il a une connotation de torture, à ce moment-là, mets activité, mets autre chose. Mais fais en tout cas des choses qui vraiment te sortent de ton monde d'avant. D'accord. Entrepreneuse, c'est pas essayer de rentrer dans un moule pour faire comme tout le monde, c'est vraiment être authentique et de faire comme toi tu le sens et non pas comme toi tu le penses ou que tu le sens et non pas aller vers quelqu'un finalement de faire comme les autres, parce que si tu copies-colles les autres, ça fonctionnera pas, parce que peut-être pour cette personne ça a fonctionné mais toi tu n'es pas la même. Donc du coup, sois authentique, voilà, vraiment. C'est vraiment important parce que ça demande du temps, ça demande de se comprendre, ça demande aussi de faire des erreurs. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais c'est ça l'expérience. L'expérience, c'est finalement de vivre ton étape, de voir les informations qu'elle t'a amenées et puis de les switcher. C'est-à-dire que si, par exemple, pendant 3 mois, t'as fait une stratégie, puis pendant ces 3 mois, t'as toujours pas de client, je change de stratégie simplement. Ne dis pas que t'es nul ou que tu ne sers à rien. Change juste la stratégie parce que tu fais un bilan, tu dis, pendant les 3 mois, j'ai fait ça, qu'est-ce qui a ramené le plus? OK, ça, je continue, puis ça, j'arrête. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'échec. Il y a juste une expérience. Qu'est-ce que cette expérience t'a donné comme information? C'est tout. Donc, ne commence pas à te dénigrer. Parce que ça, je le vois aussi très souvent. Et moi-même, j'ai été dans cette flagellation en me disant, mais oui, alors t'es nul. Dis donc, j'ai regretté même de me lancer là-dedans, dans cette entreprise. Mais finalement, ça a vite switché.
Mais justement, tout à l'heure, tu disais que enfin, être entrepreneur, c'est pas revenir dans le monde de salariat. Et c'est vrai que
Oui.
je connais pas mal de personnes qui font des horaires de malade, quoi. Enfin, qui travaillent des statuts,
Alors,
des heures,
ouais,
etc.
c'est vrai.
Et du coup, aujourd'hui, toi, Samia, c'est quoi ta journée type?
Alors, il y a des choses que j'ai expérimentées, donc ça fait 2 ans quand même, donc je me suis acharnée la première année, hein, je faisais 8h-23h du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Donc tu vois, alors là, je faisais deux tafs en fait, hein. Mais avec le temps, évidemment, j'ai commencé justement à m'aligner. Ça veut dire que je repartais dans le faire, beaucoup dans le faire, et puis là, je me suis dit, OK, comment harmoniser les deux, c'est-à-dire ma vie privée et le travail? Parce que ça aussi, c'est complexe. Tu sais, quand tu es à la maison, au départ, tu te dis, ah, c'est chouette de travailler à la maison. Et c'est vrai, c'est chouette. Mais au bout d'un moment, comme tout d'ailleurs, bah, tu en as un petit peu marre et tu aimerais changer. Bon, aujourd'hui, on n'a plus la chance, par exemple, d'aller dans les coworking, des choses comme ça, parce qu'on est sous Covid. Mais sinon, faut le faire. Faut au moins se prendre 2, 3 jours ailleurs que dans la maison. Parce que sinon, vraiment, ça nous fatigue mentalement. Donc, il faut aller voir, faut sortir, il faut changer aussi d'endroit et d'air. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très important. Mes journées type, par exemple, moi, je ne travaille dorénavant jamais le dimanche ni le lundi. Le lundi, tout simplement parce que c'est pas compliqué. À chaque lundi, à chaque fois que j'avais des rendez-vous, des choses comme ça se passait toujours très mal. Et au bout d'un moment, je l'ai compris. Donc, je me suis dit, fini, je ne travaille plus le lundi. Donc, le lundi, je n'ai pas de communication à l'extérieur. Jamais. Je me laisse le dimanche pour la famille. Le lundi, je travaille jamais. Et donc, mes journées, en fait, mes semaines commencent le mardi. Donc, je fais le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, c'est pour les gros ateliers. Mais voilà. Donc, et je peux travailler. Par exemple, je peux commencer des journées à 15h et finir à 22h. Voilà. Parce qu'il y a des lives, parce qu'il y a des interviews, parce qu'il y a du partenariat, parce que. Mais voilà, je ne vais pas m'obliger à me lever à 8h. Il y a beaucoup de gens qui disent oui. Les gens qui se lèvent tôt, par exemple, le travail appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors,
Oui.
ça aussi, c'est une croyance. Non, non, tu peux te lever tôt. Moi, je me lève tôt, mais je ne fais pas de travail. Je suis avec moi. Donc, je vais marcher dans la nature, je vais méditer, je vais tout faire sauf ça.
Parce qu'il y a un truc en ce moment, pareil pour les entrepreneurs et même pour les personnes qui sont salariées, mais il y a eu le fameux Miracle Morning
Oh my God.
et au bout d'un moment, tout le monde s'est mis au Miracle Morning. Et en fait, j'ai essayé hein, pendant 3 mois. Je me levais à 5 heures du matin pour faire le Miracle Morning et après enchaîner par ma vie de travail. Et ce n'était pas possible. Et à ce moment-là, enfin, je me torturais. Je me disais, mais pourquoi tout le monde arrive? Enfin, du coup, je me torturais de fou. Et après, en fait, j'ai arrêté. Je me suis dit, ben, moi, déjà, j'ai l'énergie le soir. Et après, en fait, j'ai lu un livre qui est très, très intéressant qui s'appelle When. Il parle de la chronobiologie. Et en gros, que les personnes, il y a différents types de personnes en fait. Il y a des personnes qui ont plus d'énergie le soir ou d'autres personnes qui ont plus d'énergie bah, le matin ou autre. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes besoins en fait. Il y a des personnes qui ont besoin le matin d'être un peu tranquille et d'être tout seul avant d'être en mode très énergie le soir ou des trucs comme ça. Et d'autres personnes, c'est tout à fait le contraire, quoi.
Exactement, Najwa. C'est pour ça que c'est important d'être aligné avec soi. On en revient toujours à cette même notion, c'est-à-dire que si tu copies, tu colles quelqu'un d'autre, ça ne va pas fonctionner parce que tu n'es pas cette même personne. C'est exactement la même chose que quand tu vas faire un régime. Celui qui va faire un régime keto, celui qui va faire un jeûne, celui qui va faire je ne sais pas quoi, ça ne va pas fonctionner forcément sur lui. Pourquoi? Ben parce que son terrain n'est pas le même. Donc on ne fait pas la même chose comme ça. C'est pour ça que c'est très important. Le Miracle Morning, c'est quoi? C'est finalement l'idée d'apporter, donc c'est les États-Unis qui ont apporté ça en France, mais en réalité, ces États-Unis-là l'ont pris aussi sur les anciennes traditions yogistes qui se lèvent à 5h30, qui font la salutation du soleil. Enfin, vraiment, il y a tout un sens.
Bien sûr.
D'accord? Donc, il y a tout. Moi, je trouve ça vraiment, et je suis désolée pour ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, et même, voilà, je suis désolée pour ce mot, mais je trouve ça débile. Déjà, de se lever à 5h30, je trouve ça très bien. Moi, je le fais aussi. Mais par contre, si je vais passer 5 minutes à lire, 5 minutes à méditer, 5 minutes à faire 3 pompes, 5 minutes, mais moi, ça va me stresser. Moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir du temps. Donc, l'idée, c'est je me lève tôt, mais pour avoir du temps pour moi. Donc, si c'est respirer pendant 1 heure, méditer pendant 3 heures, ben c'est OK. Mais si c'est juste pour faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ben en fait, tu deviens encore une fois, tu sais, cette personne alarmée. On dit, vas-y, au pas, et au droit, et au pas, et au droit. Et ben, finalement, tu pètes un plomb. Donc, et tu sais, c'est intéressant ce que tu as dit, Najwa, parce que tu t'es flagellée. Et tu t'es dit, ben, t'es nulle, les autres y arrivaient pas, toi. Donc là, tu as commencé effectivement à te juger et à te maltraiter. Et
Bien
c'est
sûr,
ça
parce
qui est intéressant.
qu'il y avait tout un système, c'est-à-dire tu te mets dans des groupes, etc., tu regardes un peu tout le monde ce qu'il fait, et du coup, il y a ce système de comparaison qui se crée enfin, inconsciemment, enfin,
Bien sûr.
de voilà, ben oui, la méthode, elle marche pour tant et tant personne. Et tu vois, enfin, les gens, ils partagent généralement leur réussite. Hein, les gens, ils partagent pas. C'est un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on regarde un peu la vie des entrepreneurs, ben on se dit, ben ouais, enfin, c'est trop bien, ils sont tout le temps en vacances. Mais c'est pas ça la réalité. Il y a aussi derrière les coulisses. Et c'est ça l'idée aussi, c'est de déconstruire un peu beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. Tu vois, parce que les réseaux, ils partagent ce qui est bien, quoi.
Exactement, et tu as tout à fait raison, Najwa. Aujourd'hui, on te montre justement tout ce qui brille. Tu sais, c'est un peu le problème de tout ce qui brille. Oui, genre, c'est super et tout, c'est faux. Ça demande énormément d'exigence de soi, de persévérance, de patience, de lâcher prise, mais surtout aussi d'arrêter de se juger. Parce que ce qu'on te montre sur une photo, hein, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de vivre derrière. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. C'est que c'est au début, c'est bien d'être à la maison. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Puis alors, pour ceux qui, quand ils pensent que bah, voyager, c'est aussi génial, il y a des fois, c'est très compliqué parce qu'il y a les différences d'horaires, différences de langue. Et puis, il y a les réseaux. Des fois, tu te retrouves dans des pays où tu ne peux pas faire du réseau. Donc, du coup, ça devient compliqué. Enfin, bref, il y a tout justement, et tu as tout à fait raison, on te montre la belle vie, mais finalement, ce n'est pas que ça. Il y a aussi partout, c'est comme sur une pièce, tu as un côté, tu as un autre côté. Donc, tu as ce côté, effectivement, où tout se passe bien, mais tu as l'autre côté où, effectivement, il faut régler pas mal de soucis. Donc, oui, ça peut être un rêve, c'est clair, mais il faut voir aussi qu'il y a quand même ces côtés inconvénients. Donc, il faut être clair avec ça, à devenir entrepreneuse. D'abord, ça met du temps, encore une fois. Hein, il y en a beaucoup qui arrivent. Tu entends les coachs là, de passer de 10 000 euros en 3 mois, ce qui est faux, hein, d'accord. Il faut être vraiment, vraiment clair. Parce que s'il fait ça, c'est que pendant 6 ans, tu sais, il a bûché comme un fou avec une équipe de fous. Et là, en 3 mois, il le fait. Mais parce que pendant 6 ans, il a travaillé. Mais ça, il l'a pas dit. Lui, il a juste dit quand il a lancé le bouton et quand il a eu son argent. Sauf qu'en réalité, ben, il y a 6 ans qui se sont passés parce qu'il a construit ça. Son pourquoi profond, son l'idée du business qu'il va faire, avec qui il va travailler, qui il veut accompagner, comment on va les accompagner. Toutes ces questions, là aussi, il faut les poser. Tu vois ?
Et c'est ça qui est important. Et ça aussi, pardon, c'est un effet marketing. C'est-à-dire, c'est son positionnement sur le marché. C'est-à-dire, viens, je t'aide à avoir 10 000 euros. Enfin, moi, j'ai entendu. Enfin, j'ai vu même sur des stories Instagram et tout. Bien sûr. Une personne qui se positionne comme ça, grâce à moi, tu vas avoir 10 000 euros par mois. Enfin, c'est assez fou même comme promesse, en fait. C'est un peu comme ces personnes qui disent grâce à moi, tu vas avoir une confiance totale à toi en 100%. Enfin, moi, je suis un peu dans la psychologie. Je sais, c'est une notion qui est complètement fausse. La confiance en soi, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire, sur un sujet, je peux avoir confiance en moi. Et même moi, la même personne, sur un autre sujet que je ne connais pas, que je n'ai pas expérimenté, ben, je peux ne pas avoir zéro confiance en moi. Et en fait, la confiance en soi, c'est dynamique. Et c'est l'expérience et c'est l'action qui fait est-ce que tu auras confiance en toi sur certaines choses et le travail que tu fais sur toi, sur tes croyances, sur tes schémas de pensée, etc. Du coup, c'est pas une notion figée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la potion magique et tu vas avoir confiance en toi ou tu vas avoir 10 000 euros par mois, etc. Et c'est vrai, moi, ça me dérange ce genre de promesse, en fait.
Oui, et c'est vrai, ça peut déranger beaucoup, ça peut être vrai pour d'autres. Ça, c'est vraiment une question, encore une fois, très personnelle. C'est-à-dire que n'importe quelle entrepreneuse, si elle a envie de faire cet argent-là, va tomber dans le panneau, entre guillemets. Mais c'est comme ça veut dire que c'est aussi le moyen aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai découvert quand même beaucoup, c'est que finalement, ces gens-là ne sont ni thérapeutes, ni coachs, ni machin. Mais en fait, ce sont des anciens, tu sais, de commercial ou qui ont fait des études de commerce. Donc, ils connaissent très bien ce que c'est que le marketing. Donc, ils le vendent parfaitement bien. Et donc, du coup, tu achètes un produit qui, finalement, ils en ont tellement bien parlé qu'en réalité, le produit, vraiment, il n'est pas du tout terrible. Moi, j'ai vu des filles, des personnes acheter beaucoup de choses qui, finalement, étaient très déçues. Parce qu'en réalité, d'abord, rares les coachs qui te parlent, en gros, hein, puisqu'aujourd'hui, on vend des formations sur Internet à tout va. Et donc, du coup, ce sont que des vidéos que tu as. Donc, quand tu commences en tant qu'entrepreneuse, alors il y a aussi quelque chose que je voulais dire pour les entrepreneuses. S'il vous plaît, quand vous commencez, ne commencez pas à faire des crédits ou je sais pas quoi, d'emprunter des sous pour faire le site web, pour monter je ne sais pas quoi, pour acheter du matériel. Non. Commencez déjà par savoir ce que vous voulez, avec les valeurs fondamentales avec lesquelles vous voulez avancer, qui vous voulez accompagner, votre pourquoi profond. Et ensuite, tâter, d'accord ? Ça viendra avec l'expérience et puis vous verrez, d'ici un an ou deux, vous serez peut-être même meilleur que d'autres, d'accord ? Et ça, c'est important. Ne commencez pas à dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour justement croire que parce que votre site va vous ramener de l'argent. Il faut savoir que derrière un site, il n'y a pas qu'un site, hein, d'accord ? Il y a les hébergements. Après, il faut travailler sur le SEO, vous n'y comprenez rien, donc vous allez encore payer quelqu'un. Après, il faut prendre une page de vente pour qu'il soit bien. Donc là, vous avez une page de vente. Enfin bref, il y a tellement de choses. Commencez d'abord par vraiment savoir ce que vous voulez, puis ensuite, commencez à faire de l'argent et là, vous pourrez payer peut-être une équipe. Mais franchement, ne faites pas le contraire. Si quelqu'un vous dit, fais le site parce que grâce à lui, tu vas avoir de l'argent, fais le machin, fais la page de vente, fais ceci, fuyez, vraiment. Commencez par vraiment pratiquer ce que vous savez et tranquillement, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure avec Najwa, c'est des étapes, hein, d'accord ? Donc, tranquille, faites un bilan au bout de 3 mois, voyez ce qui a fonctionné, voyez ce qui ne fonctionne pas, laissez tomber ce qui ne fonctionne pas et allez-y tranquillement, d'accord ? Ne rentrez pas en tant qu'entrepreneuse. Alors, moi, je sais que je l'ai fait, je le décommande parce que vraiment, j'ai sauté de l'avion sans parachute. Hein. C'est-à-dire que j'étais fauchée et je n'avais rien derrière pour assumer mes arrières. Donc, vraiment, ne faites pas ça quand même. Essayez d'avoir un petit peu derrière pour au moins être tranquille dans votre tête, hein, parce que sinon, c'est très compliqué. Voilà, ça, c'est vraiment aussi un petit conseil que je vous donne en tant qu'expérimentation et d'autres filles que je vois et qui ont lâché bien avant parce que pour elles, elles pensaient que c'était plus facile que ça et pas du tout.
Exactement. Ben, merci pour le conseil. Et c'est quoi aujourd'hui, Samia, les outils essentiels que tu utilises pour réaliser tes projets et du coup, que tu ne vois vraiment pas ta vie sans eux?
Alors, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est un peu tout mélangé. C'est-à-dire que déjà, c'est prendre du temps pour moi. Alors, tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Oui, mais alors, si tu prends pas de temps pour toi, tu vas voir, tu n'auras jamais d'idées, tu sais, concrètes. Tu seras pas… Parce qu'à force d'être bûché, tu sais, sur ton travail, hein, bah, finalement, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu sais, tu as tes énergies qui bloquent et donc, tu n'as plus rien de créatif. Tu es juste bloqué, en train de te prendre la tête. Donc, prends du temps pour toi. Ça, c'est très important parce que le temps que tu vas prendre pour toi, finalement, c'est constructif. Parce que tu vas être bien, parce que tu vas être au top, parce que tu vas être souriant, tu vas pouvoir attirer vraiment des opportunités. D'accord ? Et donc, ça va concrétiser ton business. Alors que si tu es tout le temps stressé, énervé, ben, l'énergie va être bloquée, donc tu ne vas pas attirer ces opportunités. Et puis, parce que tu vas être en meilleure santé, et donc, du coup, il faut savoir quelque chose de très important en tant qu'entrepreneuse, tu es indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est toi qui vas créer ton revenu, hein, ton chiffre d'affaires, tes revenus, tout ça et tout. Donc, si tu ne vas pas bien et que tu es malade, ben là, c'est compliqué. C'est-à-dire que ton business sans toi, ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus de business. Donc, prends soin d'abord de toi. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Et les outils, ben, les réseaux, j'ai envie de te dire. Alors, les réseaux et puis surtout, créer une communauté. Une communauté qui te suit et pas faire tout pour faire tout. Encore une fois, aligne-toi avec toi. Lequel te parle le plus, lequel te convient le plus et fais ça. Tu vois, n'écoute pas tous les gens qui vont te dire inscris-toi sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Insta, parce qu'au bout d'un moment, tu vas craquer. Tu vas être tellement dans le faire qu'au bout d'un moment, tu vas même plus savoir où est-ce que tu habites avec tout ça. Donc, fais-le doucement. Crée plutôt une communauté, fédère une communauté, kiffe avec eux, donne-leur du contenu de valeur, hein, parce que c'est ça aussi qu'ils viennent chercher. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Et grâce à ça, tu vas fédérer une communauté, tu vas avoir des gens où tu vas peut-être même devenir ami, tu vas créer du partenariat qui va être cool, mais tu vas être ciblé que sur une chose. Parce que quand on veut tout faire, bah, finalement, on ne fait rien. Donc, ça, c'est très important aussi, d'accord ? Et ne calque pas sur les autres, encore une fois. Tu vois, l'histoire du Miracle Morning, c'est très intéressant parce que voilà, c'est se calquer sur quelqu'un qui, finalement, n'est pas en accord avec toi. Tu n'es pas en accord avec. Donc, ne pas faire ça.
Tout à fait. Et aujourd'hui, Samia, avec un peu de recul, ça serait quoi ton meilleur échec en entrepreneuriat ?
Ah bah, mon meilleur échec, c'est celui-là, avoir suivi des gens qui finalement, j'étais pas du tout connectée avec, mais on me les avait recommandés, tu sais, la recommandation, le bouche à oreille, on m'a dit, mais tu vas voir cette personne-là, incroyable, extraordinaire, magnifique. Et puis finalement, cette coach extraordinaire, incroyable et magnifique, que j'ai payé 500 euros chaque mois, alors, parce qu'il y a plein de forfaits différents dans les coachings, bref. Et donc, pour moi, je m'étais assurée le fait qu'au moins, j'allais voir un super coach et donc, j'allais que réussir au bout de 6 mois, tu vois. Et en fait, bah, pas du tout. Donc, j'ai dépensé énormément d'argent pour un coaching que j'aurais pu faire à beaucoup moins cher pour obtenir le même résultat. Donc, ça aussi, c'est… Alors, je ne critique pas les prix, ce n'est pas ce que je fais, attention, qu'on s'entende bien. Mais je dis tout simplement qu'avec la tête, j'ai pensé. Donc, je me suis servi de formules mathématiques que j'avais prévues moi, c'est-à-dire si je fais A plus B plus C plus D, ça va obtenir Z. Finalement, je me suis complètement plantée puisque je n'étais absolument pas alignée avec elle. Mais mon mental a pris le dessus en disant « Mais si, ça vient avec elle, regarde, il y en a plein qui ont réussi, donc tu vas réussir. » Ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu vois, donc ça, c'est le premier échec, c'est-à-dire de s'écouter vraiment, vraiment, vraiment. N'aie pas peur, même si tu penses que tu vas te planter, écoute-toi. Écoute-toi parce que tu es la personne la plus importante. Ton business, il a besoin de toi, de ton intuition, de ta créativité et de l'amour que tu lui donnes. Si vraiment tu écoutes ton mental, tu vas aller effectivement dans la peur. Donc, tu ne vas plus prendre des décisions avec l'amour, mais tu vas prendre des décisions avec ta peur. Et si tu prends des décisions avec ta peur, c'est sûr, tu vas être dans l'échec. Parce que les conséquences, en plus, sont très dures. Parce que tu vas te dire, mais si j'avais su, je le savais et je l'ai fait quand même. Donc, tu vas encore plus, on va dire, te détester.
Carrément.
Voilà. Les plus gros échecs, c'est ça. C'est d'avoir finalement voilà, écouté quelqu'un qui ne connaît pas avec moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'aligne vraiment et je vais vers les gens avec lesquels je peux être alignée, où je sens leur énergie qui est plutôt fun, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs entrepreneuses. Hein. Il y a aussi des entrepreneuses spirituelles. Donc, ils sont alignées business et spirituelles. Donc, voilà. Donc, j'en fais un peu partie, j'ai envie de dire. Et donc, les gens lambda qui avec des objectifs, et ben moi, je n'ai pas envie et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, il m'a fallu quand même ces étapes dans cette expérience pour comprendre ça.
Oui, c'est un meilleur apprentissage. Et du coup, Samia, pour l'année 2020, parce qu'on sait très bien que l'année 2020, on était en plein crise sanitaire et que ça a changé pas mal de choses pour les gens, pour les individus tout court et notamment pour les entrepreneurs. C'était quoi, toi, ton bilan pour cette année et c'est quoi tes perspectives?
Alors, mon bilan pour 2020, c'est justement de ne pas écouter les gens. Vraiment, de revenir toujours à soi. Donc, ça, c'est très important. D'être aligné avec les personnes avec qui les clientes que j'ai. D'accord? Donc, ça, c'est aussi important puisqu'au départ, quand on est entrepreneuse, on se dit, bon, ben, je la prends quand même parce que ça fait de l'argent, parce que c'est quand même une cliente, parce que tu peux. Mais finalement, tu n'es pas du tout aligné. Et donc, c'est la cliente, en règle générale, tu sais, qui te pose le plus de problèmes possibles. Donc, c'est très bien parce que c'est une belle expérimentation. Hein. Là, c'est là où tu dis, waouh, je vais cocher toutes les cases. Non, non, non et non. Donc, je ne reprendrai plus, tu vois. Ça, encore une fois, c'est des expériences. Donc, c'est bien aussi de les prendre. Donc, prends cette expérience. Et moi, je sais qu'en tout cas, ça, je ne referai pas non plus. C'est-à-dire que m'obliger, encore une fois, à prendre ses clients. Donc, le bilan pour cette année, il est vraiment très positif pour moi parce qu'il m'a permis, en plus d'être en plein boom, c'est-à-dire que je me suis mis sur le digital au bon moment, j'ai envie de te dire, puisque je n'avais pas de travail présentiel. Donc, je me suis installée au bon moment. Donc aujourd'hui, en fait, ce Covid pour les entrepreneuses, si tu veux, en réalité, ça ne change pas grand-chose puisqu'on est, on est visible sur les réseaux, on crée une communauté sur les réseaux. Donc le marché, finalement, il fonctionne, tu vois. Il y a quand même 3 milliards de personnes sur Facebook, je ne sais pas combien sur Insta, mais tu vois, donc ça génère du monde. Donc ne pas déconsidérer les réseaux, ne pas en abuser non plus. Tu vois, alors ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je donne. Quand vous êtes entrepreneuse, si vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux, enlevez toutes les applis de votre téléphone. Parce que tu sais, dès que tu entends un truc, tu y vas, mais finalement, tu perds le fil de ce que tu fais. Enfin, tu perds énormément de temps.
C'est vrai.
Donc ça, c'est très important. Utilisez les réseaux à bon escient, parce que c'est important et ils vont générer. C'est-à-dire ce que tu faisais avant à pied, au téléphone et tout, là, tu vas le faire avec les réseaux, tu vas communiquer. D'accord ? Donc ça va être plus simple. Mais n'en abuse pas, parce que là, ça peut te rendre folle.
Et justement, si tu dois aujourd'hui, Samia, offrir un livre à quelqu'un qui va entreprendre, ça serait lequel ?
Alors, j'en offrirai deux, ou peut-être trois même. Mais pour moi, alors, je n'ai jamais lu de livre, on va dire, de gros entrepreneurs, mais quand même. Alors, c'est Lise Bourdeau. Les blessures, parce que grâce à l'entrepreneuriat, finalement, tu te rends compte, tu sais combien, finalement, si les gens te disent non, comment, si tu te sens rejeté ou pas, parce qu'en réalité, ils t'ont juste dit non. Mais toi, dans tes blessures, tu vas penser peut-être qu'ils t'ont rejeté. Donc, tu vas avoir du mal, tu sais, à rappeler les gens. Tu vois, souvent, il y en a qui te disent, oui, mais moi, j'aime pas la vente. Ah, c'est intéressant. Pourquoi t'aimes pas la vente? Qu'est-ce que ça reflète chez toi, finalement? Et quel est le mindset derrière qui va peut-être t'empêcher de concrétiser? Donc, tout ça, c'est très important. Ce n'est pas du tout à déconsidérer. C'est exactement, tu sais, comme la maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entrepreneuse. Derrière, il y a des choses très, très inconscientes. Et des fois, elle a peur de vendre parce que finalement, elle a des croyances limitantes concernant l'argent, par exemple. Donc, tu vois, elle va dire, non, mais moi, je ne veux pas prendre autant parce que ça ne se fait pas, parce que moi, je veux aider, parce que. Mais derrière, en réalité, il y a une vraie croyance limitante par rapport à l'argent. Tu vois, donc il y a ce blocage à débloquer. Donc ces blessures-là où justement tu vas pouvoir mieux te connaître. Et ensuite peut-être l'industrie du 21e siècle de. Alors je suis désolée, mais le nom je l'erronne hein, parce qu'à chaque fois, c'est un japonais ou un Miyazaki. Miyazaki, je crois que c'est ça. C'est Miyazaki et c'est l'entreprise du 21e siècle.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment des choses que je recommande parce que déjà, c'est simple, c'est clair et puis surtout, il t'explique vraiment ça assez bien. Voilà.
Merci. Et du coup, là, on va passer à la dernière partie dans notre interview. En fait, je vais te poser des questions qui sont rafales, qui sont hyper rapides. Et l'idée, c'est que tu réponds le plus spontanément possible.
Ok.
C'est quoi la chose que tu fais, la première chose que tu fais le matin?
Oh, je médite.
Selon toi, qui incarne le mieux le mot réussite?
Le mot réussite, hein?
Ouais.
Nathalie Martin, allez.
Quel animal te présente le mieux?
Dauphin.
Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as vue?
Oh God, il faut vraiment que je le dise. Alors, Atia.
Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité?
Souriante.
Et selon toujours tes proches, c'est quoi ton plus grand défaut?
Oh, hargneuse, je suis teigneuse, je suis têtue.
C'est quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres?
Ah ouais, bah marcher pieds nus dans l'herbe. Alors, qui neige ou pas, eh ben je marche toujours pieds nus dans la nature.
Super, mais merci beaucoup Samia. Est-ce que tu auras à dire un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent et où on peut te retrouver?
Ah oui, avec plaisir. Alors, n'écoutez pas tout ce que je dis. L'entrepreneuriat, c'est aussi une belle chose, attention, mais il faut juste avoir, j'ai envie de dire, les bons outils quand même pour y aller, d'accord? Tranquillement, sereinement et surtout dans la pérennité. Donc ça, c'est très important. Et vous pouvez me retrouver aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, je suis partout. Voilà, donc vous pouvez me retrouver, c'est Samia Mekas, hein, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi sur Facebook Samia Mekas et sur Instagram Samia Mekas, d'ailleurs. Donc voilà, donc on peut me retrouver un peu partout et simplement me poser des questions puisque je suis assez accessible.
Super, ben merci beaucoup Samia et à très vite.
Avec grand plaisir, merci à tous et à tous et merci pour tous ceux qui nous écouteront.
J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de partager autour de vous, d'en parler et de nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine !